Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première bulle cannoise, donc un format d'émission que nous avons lancé l'an dernier au Festival de Cannes et que nous reprenons cette année. Nous reviendrons chaque jour sur un film marquant de la journée et nous allons commencer aujourd'hui avec Monster de Hirokazu Koreeda, premier film de la compétition à être montré ici. Il se trouve que l'an dernier on avait terminé les bulles cannoises sur Les Bonnes Étoiles du même Koreeda qui était donc en compétition l'an dernier et qui ne nous avait pas vraiment plu, quoique j'étais en face de Corentin Lé, que vous verrez cette semaine, et je défendais en tout cas quelques aspects du film, car il se trouve que j'ai beaucoup aimé Koreeda dans mon adolescence et il me déçoit un peu ces dernières années. Donc je suis accompagné de Josué Morel et nous sommes, je le dis pour cette première vidéo, enregistrés par Étienne Cimetière-Cano et je le remercie. Josué, qu'as-tu pensé de ce premier film de la compétition?
Alors, pas beaucoup de bien. C'est un peu compliqué d'en parler parce que c'est un film qui appartient, à mon avis, à une espèce de sous-catégorie du cinéma de festival qui est le film à stratégie narrative. C'est-à-dire que vraiment tout le film repose sur une structure qui va se déplier par un jeu de miroir, par un jeu de dédoublement qui fait qu'en fait on voit des scènes dont on comprend vraiment la teneur a posteriori. Mais disons, pour résumer et peut-être intriguer ceux qui attendraient le film, ça commencerait un peu comme un espèce de thriller psychologique entre le Bong Joon-ho et le manga, hein. Par exemple j'ai pensé au manga Monster qui porte le même titre, pour cacher en fait un espèce de remake japonais de Close de Lucas Dont. On dit comme ça, ça peut paraître vraiment étonnant, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les enfants jouent un jeu qui consiste à dire qui est le monstre, et en fait durant les deux tiers du récit on a l'impression que le monstre c'est potentiellement tout le monde. Il y a une espèce de dimension maléfique qui semble émaner de presque tous les personnages, et en fin de compte ça peut paraître un peu étonnant quand on connaît l'humanisme bon enfant de Koreeda, voir son côté un peu guimauve, hein, moi je trouve clairement, hein, que ce soit une petite sœur, même le film pour lequel il y a la Palme d'Or, une affaire de famille. Et en fin de compte il renverserait presque l'équation dans le dernier temps, c'est-à-dire qui est le monstre, et bien grosso modo personne, sauf peut-être un personnage de père un peu abusif. Une manière comme ça de transformer toute la matière noire potentiellement de ce récit pour faire une espèce de films enfantins beaucoup plus solaires autour d'un secret, et alors je trouve vraiment que sur cette articulation là le film non seulement tient pas narrativement, hein, c'est vraiment c'est un peu comme on en parlait tout à l'heure, c'est un peu comme le dernier duel de Ridley Scott, c'est-à-dire c'est des espèces de films post-Rashomon, des espèces de versions contemporaines où on aurait différents points de vue qui en fin de compte pour servir leur propos trichent un peu, hein, sur des effets de narration. Et moi je trouve qu'il y a vraiment cette manière de retourner comme ça comme un gant une espèce d'extrême noirceur, un récit complètement énigmatique pour en faire au contraire un film complètement solaire et limpide qui prend pas du tout, qui même moi me semble être une grande bêtise, hein. Vraiment la stratégie narrative que travaille le film de passer comme ça dans l'espèce d'état d'émerveillement me laisse un peu quoi, pour dire les choses honnêtement.
Oui, parce qu'il faut dire que c'est vraiment un film de scénario, quoi. C'est la première chose qui marque peut-être cette façon dont ce scénario se déploie avec une armature apparemment très impressionnante comme ça. Donc tu as cité le dernier duel de Ridley Scott. Koreeda, à la différence de Ridley Scott, a le bon goût de ne pas tricher par l'image, c'est-à-dire que chaque nouveau point de vue, puisque voilà, le film, on l'a un peu compris, fonctionne par différents points de vue qui se succèdent autour de mêmes petits événements qui restent du coup extrêmement énigmatiques, mais de façon assez artificielle, il reste énigmatique au fond juste parce que des personnages ne peuvent pas se parler. Enfin, le scénario en fait apparaît comme ça extrêmement complexe, mais ne tient en rien. Mais voilà, au moins il respecte un petit peu une espèce d'éthos de mise en scène qui est que au moins voilà, il n'y aura pas de mensonges en tout cas qui seront joués par des acteurs.
Et en même temps, il y a une forme de mensonge un peu inhérent au principe, c'est-à-dire que si on met cette histoire dans l'ordre, etc., bon, ça peut paraître un peu facile comme reproche, le film est complètement anecdotique, c'est-à-dire le film tient quand même sur une espèce de fausse complexité, de faux mystère entre
tout à fait, mais
forme,
le film.
Et là, il y a quelque chose qui est un peu mensonger, quoi, dans ce qu'organise le récit, c'est-à-dire il y a un peu un effet d'esbrouf narratif sur lequel le film tient uniquement. Et quand il dévoile tout, parce que c'est aussi un film sans mystère, faut le dire, c'est un film qui ménage beaucoup, apparemment, de zones d'ombre, de trous de narration, et en fin de compte, tout est clarifié, même si ça tient pas debout.
Ou des mystères accidentels, voilà, c'est ça, sur des choses non réglées du récit.
Et c'est un film qui n'a finalement aucun recoin d'ombre à l'arrivée, ce qui le rend encore plus navrant, à mon sens.
Oui, oui, mais je le précise au cas où dans mon intervention, moi qui ai vu presque tous ces films, à quelques exceptions près, dont La Vérité, donc je mets peut-être un hiatus là-dessus, c'est vraiment le pire film de Coréda pour moi, et un désaveu total, une démission même, vraiment, vraiment platement filmé, platement enregistré, comme ça, une espèce de, voilà, d'esbrouve de scénario. En fait, moi, devant les deux premières parties du film, qui sont un peu, voilà, qui essayent de travailler une sorte de malaise diffus, ou dans une tradition assez japonaise, effectivement proche du manga, ça, il y est question de harcèlement scolaire, qui est vraiment un problème sociétal, bien sûr, en France, mais au Japon, c'est vraiment un vrai phénomène de société et un tabou aussi. Donc c'est travaillé énormément par la fiction japonaise. Ce malaise diffus me semblait pas très corédien, si tu me permets l'expression. Et en fait, au fur et à mesure des petites réponses qu'on a, le twist, disons, au long cours du film, c'est que, ah oui, c'est bien un film de Coréda, mais vraiment la période, effectivement, la plus mauvaise de Coréda. Enfin, c'est vraiment on a vu la guimauve totale l'an dernier avec Les Bonnes Étoiles, et là c'est vrai que ça ne prend pas du tout. Il y a toujours cette musique qui est vraiment extrêmement mauvaise, et c'est très triste de le dire puisque c'est la dernière musique de Sakamoto, mais ça s'intègre au dispositif coréen. Donc voilà, c'est trois accords de piano totalement sirupeux, et c'est vrai que j'ai vraiment du mal à comprendre l'intérêt de ce film, en fait, tout simplement qui se cache derrière tellement d'artifices pour ne pas raconter grand chose finalement, si ce n'est quelque chose de très bête qu'on comprend assez vite.
C'est bête, mais vraiment la maxime esthétique du film, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. C'est vraiment ça, hein. Le film ne tient que sur cet argument. Donc évidemment, quand il explique tout, il s'effondre, il retombe comme un soufflet.
Exactement, mais on voulait quand même, je me souviens, on s'est dit ça, citer un plan qui nous a plu, car c'est la première Bulcanoise, et même s'il pleut, on essaye.
Un plan, déjà,
l'an dernier, je le faisais.
Je suis aussi ce plan-là, c'est marrant.
Mais qui m'avait assez marqué. Et oui, même s'il pleut, il faut quand même commencer nos Bulcanoises par quelque chose d'un peu positif. Donc il y a un plan de pluie d'ailleurs, qui est vraiment extrêmement étonnant.
Il pleut à Cannes.
Filmé derrière une vitre.
En fait, c'est filmé sous une vitre boueuse.
Vas-y, je te laisse expliquer.
Et il y a deux personnages qui essayent d'enlever la boue pour atteindre la fenêtre et l'ouvrir. Et donc, on voit d'au-dessous la vitre, et on voit l'eau tomber avec la boue et les tentatives un peu vaines des deux adultes en train d'essayer de chasser cette boue. Et là, il y a une espèce de plan abstrait qui dure un certain temps. Et on a l'impression que cette boue est une espèce de noir constellé d'astres par les petites gouttes de pluie.
C'est un moment qui acte un changement de point de vue, en plus, en passant de l'autre côté de cette vitre, puisque c'est la fin d'une partie, en fait.
C'est intéressant parce que c'est un peu le seul plan de vrai metteur en scène en dehors de... Alors, il y a des plans un peu au cordeau, cadrés.
Voilà, il y a il y a des plans d'artisans. On devine ça et là, quelqu'un qui a fait beaucoup de films et qui sait y faire à travers quelques reflets, à travers encore un plan de train comme il en a fait tant dans sa carrière. Mais c'est vrai que c'est...
Mais disons que ce qui est beau aussi dans ce plan, c'est que c'est le seul aussi qui peut-être est détaché de la machine narrative, parce que c'est une machine narrative, hein, c'est une pure construction. Et là où il filme quelque chose d'un peu étonnant, qui serait un rapport à la matière, qui serait une sorte de suspense météorologique, puisqu'il y a quand même cette idée que sous cette boue, il y a peut-être des enfants qui sont ensevelis par un glissement de terrain.
Encore un énième mystère tenir un petit peu des micro-suspenses tout au long du film. C'est un procédé dramaturgique qui me fatigue un peu.
Beau, mais
oui,
bon,
il est
pas
très
suffisamment
beau
pour sauver le film.
Non, bien sûr.
Mais même quelque part en relief, ce qui va pas, quoi. C'est-à-dire que tout le reste est une espèce de machine narrative, et que le film ne fait que ça, quoi. D'essayer de déconstruire, de mener à bout sa stratégie, quelque part nous mettre la tête sous l'eau pour faire entrer le soleil dans la dernière partie, quoi. Moi, je prends pas du tout. Je trouve ça complètement artificiel.
Merci beaucoup, Josué. On espère qu'un jour Coréda reviendra à l'époque de Nobody Knows et de Still Walking, mais elle paraît d'année en année vraiment bien loin. Et on espère aussi que demain, le film dont nous parlerons nous plaira plus, et qu'il fera peut-être un meilleur temps, ce qui nous permettra de filmer à notre endroit habituel pour celles et ceux qui regardaient nos vidéos l'an dernier. Merci Josué.
Merci Marin.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.